L'Église, ce n'est pas seulement se réunir le dimanche matin ou faire une étude biblique le mardi soir, mais l'Église, c'est aussi avoir la visite du vétérinaire et son assistante, qui sont Pierre et Pascal, qui sont venus hier soir à la maison pour opérer notre chatte. L'Église, c'est aussi Jacques Rémy qui vient pour faire un petit meuble pour la salle de bain du haut, et qui, en sautant une barrière, se brise l'épaule. Et donc, il y a un chamboulement dans l'emploi du temps, et puis on part aux urgences, et il y a une fracture de l'extrémité tiers externe de la clavicule. J'ai revu des gens que je connaissais là-bas. L'Église, c'est aussi Damien qui vient travailler à la ferme, qui fait les joints avec Simon. Deux inexpérimentés qui sont devenus des experts sur la fin. L'Église, c'est aussi faire une partie d'échecs avec Emmanuel, que j'ai perdu d'ailleurs. J'ai dû baisser mon roi avant la fin de la partie, parce que j'étais cuit de toute manière. L'Église, c'est aussi un repas avec Natacha et Emmanuel, où nous avons parlé essentiellement de la foi, le partage que vivent nos différentes églises, essayer de se comprendre les uns les autres. L'Église, c'est un repas franco-camerounais chez Tarsis, avec Wilfried, avec Prissy, avec les enfants, avec Pierre et Marina. L'Église, c'est tout ça, et c'est vraiment important. Depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de prêcher sur les textes du jour, qui sont à la fois des textes qui sont repris dans l'Église protestante, l'Église catholique. Et puis, j'ai vu les textes du jour, je me suis dit, je ne vais quand même pas leur parler de ça. C'est ce que j'ai dit le 11 novembre. Et puis j'ai dit, pourquoi pas. Mais cette fois-ci, dans une autre perspective, c'est celle du retour du Seigneur, dans celle de se tenir prêt. Pas dans l'explication des choses qui vont arriver, mais plus dans que devons-nous faire. Et je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. J'ai lu les textes qui m'ont plu. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer cette tradition qui est la mienne. Et puis, j'avais pensé à un pasteur d'Amérique du Sud qui s'appelle Juan Carlos Ortiz. Et qui, je vous en ai déjà parlé, qui un jour avait préparé son exhortation, se lève. Et ce que l'Esprit-Saint lui disait de dire, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Et il se rassoit. Bon, là, il y a un blanc, probablement le Jean-Simon qui était à ce moment-là, celui qui était au Pontique, s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir m'adapter. Le dimanche suivant, c'était toujours lui qui prêchait. Il prépare son exhortation, il arrive devant le pupitre et il dit aimez-vous les uns les autres. Et il se rassoit. Pareil. Il a fait ça 3 fois de suite. Et l'Église a été bouleversée, a été complètement changée à cause de cela. Au 11 novembre, je vous avais dit que j'avais découvert avec les moines de l'abbaye du Mont des Cats que finalement, Noël, qui se prépare, et qui se prépare pour tout le monde, même si c'est une fête qui n'est pas religieuse pour certains, mais simplement un temps familial, en tout cas pour la plupart d'entre nous, en tout cas les deux traditions chrétiennes. Et je vous avais dit que j'avais découvert avec les moines que finalement, ce temps de l'Avent, et c'est la première semaine de l'Avent, Noël, où les textes sont orientés vers ça. Et tous les textes vont dans le sens de l'attente du Seigneur. C'est pas l'attente du bébé Jésus qui va naître dans une étable. Ça, tout le monde pense que c'est ça, on attend, on a les calendriers, on a les petits chocolats qu'on décroche chaque jour avant le jour J. Où Jésus sera là, c'est vrai qu'on se rappelle que Jésus est né. Vous savez qu'il n'est pas né en décembre, on a pris cette date parce que c'est la fête de la lumière, et que le 21 décembre, c'est là où les jours sont équivalents, où la nuit est la plus longue. Et puis vous savez que lorsqu'on arrivera au 25 décembre, c'est la puissance de la lumière qui reprend sa force. Et donc c'est Jésus qui vient dans le monde, lui la lumière du monde, et qui prend de plus en plus de force. Et c'est dans cet esprit-là qu'on devrait finalement fêter Noël. C'est pas le ce retour en arrière sur la naissance de Jésus, c'est Jésus qui vient. Jésus qui ne revient pas, mais qui vient. Dans les textes, on ne parle pas du retour, on parle de la venue de Jésus. Comme s'il venait en deux fois. Il vient déjà une fois quand il est venu sur cette terre. Il nous a accompagnés, il a vécu parmi nous. Il est mort parmi nous. Il nous a montré le chemin. Et il vient encore, puisqu'il est tout le temps parmi nous. Il est là, présent au milieu de nous. Donc il est tout le temps avec nous, mais il va se redéfinir d'une manière forte lorsqu'il reviendra parmi nous. Alors le premier texte, qui est un texte dans Ésaïe, et ça fait partie de ces prophéties qui ne se sont pas encore arrivées, mais qui sont pour le futur. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et de toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et puis, il y a un psaume, le psaume 122, que nous chantons parfois. En fait, on fait un mélange entre le psaume 121 et 122. Le 121 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et le départ du psaume 122, celui qui a été choisi, c'est « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'église, allons nous faire du bien, allons nous rassembler tous ensemble pour écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. » Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là où se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Vous vous doutez bien que ces deux textes qui parlent de Jérusalem ne parlent pas de Jérusalem maintenant, qui est en crise, qui est en guerre, mais bien de quelque chose d'autre, où régnera la paix, où les épées se transformeront en chocs de charrues. Aux États-Unis, sur Washington, ce verset est d'ailleurs repris dans l'enceinte où trône Abraham Lincoln. Ils ont repris ces versets-là. C'est une perspective. C'est une perspective pour nous aussi de vivre dans la paix. Et nous allons lire un texte, cette fois-ci dans Matthieu 24, et qui était un peu le thème de ce jour sur se tenir prêt. Personne, et vous connaissez par cœur, personne ne sait quel jour ou quelle heure cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, non, personne, sauf le Père. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera lors du retour du Fils de l'homme. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'au moment où vint le déluge, qui les emporta tous. Ce sera exactement pareil lorsque le Fils de l'homme reviendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la meule pour moudre leurs grains. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit revenir. Si le père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur risque de venir, n'en doutez pas. il resterait éveillé et ferait le guet pour ne pas laisser forcer sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous toujours prêts, car c'est au moment où vous y attendrez le moins que le Fils de l'homme reviendra. » Et puis le dernier texte sur lequel nous allons nous appesantir, c'est un texte dans Romains 13. Et le contexte, d'abord, Paul s'adresse aux Romains. Vous savez quelle était Rome, comment était la grandeur de Rome. Donc il s'adresse aux gens qui habitaient là-bas, particulièrement aux Juifs de Rome. Et il dit ceci, et c'est le contexte aussi, il veut dire qu'on doit respecter les autorités qui sont en place. Et Dieu sait que les autorités en place à ce moment-là étaient terribles. Il y avait c'était le règne du fer par les Romains. Et néanmoins, Paul nous encourage dans tout ce chapitre à être des honnêtes citoyens, à aller éventuellement voter. Bon, on est en plein dedans. Et puis au verset 11, il dit « Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Alors c'est le moment, c'est l'heure. Et le grec qui est employé là, le moment ou l'heure, c'est kairos. Il y a deux mots en grec, kairos et chronos. Chronos, c'est la durée, c'est la répétition. Par contre, kairos, c'est littéralement l'occasion opportune. Et kairos était le dieu dans la mythologie grecque qui avait une épaisse chevelure, pas comme moi, et qui avait une chevelure tellement épaisse que finalement il passait à toute vitesse et puis on devait le saisir par la chevelure et prendre ce moment, capturer ce moment et être entraîné avec ce Dieu du moment présent. Saisir le moment présent. En fait, nous devrions tous vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier. Nous devrions tous être des épicuriens chrétiens, saisir le jour, faire de ce jour le plus beau jour. Et tous les jours, toujours se lever en disant « Ce jour sera le plus beau de ma vie. » Être à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire, ne pas nous appesantir sur hier, mais saisir le moment présent, ça me paraît important. Ça me paraît important que les chrétiens se disent épicuriens. Des gens qui saisissent le jour, des gens qui ne tombent pas dans la routine, des gens qui apprécient chaque moment. Qui apprécient chaque moment, comme hier soir, j'ai pu apprécier tous les moments que j'ai vécu. L'opération de la chatte, c'était impressionnant. Je vois mes filles qui étaient autour, la petite Teila qui regardait le scalpel enlever la tumeur. C'était quelque chose d'impressionnant. Et puis après, conduire Jacques Rémy à l'hôpital, c'était quelque chose de chouette. Et, malgré les circonstances, malgré la douleur, hein, il est devenu tout blanc, Jacques Rémy, en tombant de cette barrière qu'il avait essayé de franchir. Mais malgré tout, quand vous mettez ça dans une perspective de vie, c'est tellement formidable. Même dans des situations extrêmes de guerre, vous savez combien il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires dans ces moments-là d'extrême douleur, parce que le Seigneur nous accompagne tout le temps. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, il est tout le temps à nos côtés. Et il pleut sur les méchants et sur les bons. Et c'est à nous, à ce moment-là, à devenir des gens forts, à être un peu comme Paul dans le bateau qui était dans la tempête. C'était un passager comme un autre, enfin, c'était un prisonnier. Et plus les éléments devenaient difficiles, plus la tempête faisait rage, plus le ciel s'assombrissait, les vagues prenaient de l'ampleur, et plus on faisait confiance à Paul qui, lui, était serein. Rien ne vous arrivera. Et tous les gens, finalement, au lieu d'écouter le capitaine du bateau, ils étaient centrés sur la parole de Paul. C'est notre seule espérance. Et ils ont atterri sur l'île de Malte, et vous savez ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que c'est tout le temps le moment. Et vous allez me dire, Paul a parlé de ça il y a quand même 20 siècles. C'est pas hier. Et lui, il était dans une attente, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants, évidemment. On se rapproche tout le temps de ce moment-là. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, on se rapproche du jour du salut. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. On sait que l'aube va arriver. On sait que derrière, le ciel gris, le soleil brille avec force. Et j'écoutais il y a quelques années, un cours de théologie qui nous disait que nous étions à minuit moins une à l'échelle du temps. Et que Jésus était arrivé peut-être à 10h ce matin, et que nous, on était presque là. Même s'il y a 20 siècles de cela, on est à minuit moins une. Et c'est ça qu'il faut faire, essayer de se tenir prêt à ça. Se dire, et je sais que c'est une pensée qui est fortement... très forte chez Jean Simon, qu'il a redit encore plusieurs fois ce matin. Je me suis dit, s'il a bien introduit le sujet, encore une fois. C'est pas grave de répéter les choses. Et c'est pas grave si le Seigneur nous demande de nous tenir prêts, de faire en sorte que nous soyons ensemble, unis pour le retour du Seigneur. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être unis déjà dans une famille. C'est pas facile d'être unis dans une église. On se connaît trop bien, on connaît nos défauts, et c'est le défaut de l'autre qui nous excède. Mais c'est notre défi, et c'est là qu'on doit grandir et s'épanouir et se faire confiance. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Quelles sont les armes de lumière? Mais la transparence. C'est laisser voir les choses, que les choses soient transparentes dans nos vies. C'est pas facile. On a tous nos jardins secrets, il est évident qu'on ne peut pas se livrer à tout le monde. Mais livrez-vous à une sœur, à un frère, soyez transparents avec elle, dites-leur vos difficultés. La vérité, faire voir les choses telles qu'elles sont. Faire voir les choses telles qu'elles sont. Et l'éclat, faire en sorte que la lumière puisse rayonner, faire en sorte que nous soyons, comme dit ce chant, que nous contemplions, on a la possibilité de contempler le visage du Christ, et qu'on rayonne sa beauté lorsque nous le regardons, lorsque tous ensemble nous tournons nos yeux vers le Christ, lorsque tous ensemble nous essayons d'avoir une attitude, la bonne attitude. Qu'aurait fait Jésus? Qu'aurait fait Jésus? Et si nous avons cette attitude-là, eh bien... on avance et on accélère le fait que le Seigneur reviendra. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur reviendra et nous sommes, comme disait Pierre, en capacité de hâter son retour. Je crois que par notre attitude, par notre cohésion, par notre volonté de faire l'unité, de travailler à ça, eh bien nous ferons avancer les choses. Nous allons avoir un impact sur le monde. Alors c'est certain qu'on sera peut-être comme Noé, imaginez, ça doit être complètement absurde, le voilà au milieu d'un monde complètement perverti, et puis lui construit une arche, on a dû le prendre pour un cinglé, et on l'a un peu vu dans le film Noé avec Russell Crowe, que j'ai pas trop aimé, mais il y avait cette notion-là où les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Et jusqu'au dernier moment, les gens n'y croient pas, même quand il commence à pleuvoir, les gens n'y croient toujours pas. On peut, les films nous aident à transposer dans ce qui était la réalité du moment. Un type qui, au milieu de nulle part, construit une arche. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et pourtant, elle est nous. Et c'est aussi nous, les chrétiens, on est un petit peu comme ça. Mais on est nombreux quand même sur la terre. On est nombreux. Jésus est venu, il a apporté la parole, il a transformé le monde. Ça, nous sommes convaincus. Il y a un nombre de chrétiens considérable sur la terre. Plus ou moins tièdes, plus ou moins bouillants, mais ils sont là. Ils sont là. Et on doit être fort de ça et pouvoir parler de notre foi autour de nous avec simplicité, oser dire les choses. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est certain qu'on vit dans un monde perverti, où on se rend même plus compte de la perversion qui nous entoure. Des sollicitations continuelles que nous pouvons avoir, c'est inimaginable. Sur Arte, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Wajda. C'était sur une petite arabe qui vit à Riyad, donc en Arabie Saoudite, et qui veut avoir un vélo, mais les filles n'ont pas le droit de rouler à vélo, comme les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Et tout se passe autour de ça. Mais après, on a vu des femmes qui faisaient des commentaires sur donc qui s'habillent avec complètement voilées, hein, évidemment. Mais elle disait finalement, on est plus heureuse ici qu'on serait en Occident. En Occident, vous êtes tellement sollicité par plein de choses qui sont affichées sur vos murs, partout. Il y a quelque chose là. Elles n'étaient pas nostalgiques de ça parce qu'elles se disaient, au moins, on essaye de vivre une vie en se tenant. Vous, là-bas, vous êtes complètement débridé. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde débridé. On ne s'en rend plus compte. Mais je crois que c'est important de le savoir. Et savoir qu'on est harcelé de toutes parts. Et c'est pas facile de vivre honnêtement. Vivons comme en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. Sans rivalité, ni jalousie. Et ça, c'est tellement, tellement important. Vous savez que je travaille dans l'addiction. Et je lisais cette petite phrase qui dit: cette forme de plaisir, à mesure que celui-ci augmente, produit une insatisfaction chronique croissante. Et lorsque vous êtes dans une addiction, quelle qu'elle soit, vous allez toujours avoir l'impression que ça va vous faire du bien. Et vous rechutez, et vous rechutez, et vous rechutez. Quelles que soient les addictions, hein, et on en a tous. Ces petites habitudes qu'on renouvelle tout le temps, qui font partie de notre jardin secret. Et ce sera une insatisfaction chronique, croissante. Quelqu'un disait par rapport à l'addiction au sexe qu'on aurait beau avoir pour un homme, la plus belle femme du monde, la plus extraordinaire. Si on est dans cette dimension-là, même sa nudité ne nous satisferait pas. Il faudrait encore qu'on l'épluche, qu'on lui enlève la peau. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui devient destructeur, qui devient horrible. Mais c'est ça l'addiction. C'est qu'on quitte la beauté de ce que Dieu a fait pour dévoyer ça. Et par rapport au sexe, c'est certain. Les gens que j'ai rencontrés qui multiplient les partenaires sont tristes. Sont tristes. Des hommes me disaient, voilà, bon, je connaissais même pas son nom. Je me suis levé le matin, je connaissais même pas son nom, son prénom. Et il y a une tristesse. Et il dit, je recommence, et je recommence, et je recommence. Soyons vigilants à ça, parce que si on est pareil, nous, les hommes et les femmes qui sommes ici présents, on est, Pierre le disait ce matin, on n'est pas mieux que tout le reste de l'humanité. La seule chose que nous avons en plus, c'est Jésus-Christ qui nous aide, qui est à nos côtés. C'est le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous aide à tenir. C'est cette confiance qu'on doit avoir en lui. Se dire, grâce à toi, je me tourne vers toi. Et c'est Pierre, mon frère dans la chair, et mon frère spirituel, qui disait que quand on est comme ça tenté, tournons-nous vers le Seigneur. Mais il y a une voix qui nous dit, non, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu ne vas pas abonder là-dedans. Moi, je me rappelle très bien avoir eu des pensées dont je vous parlerai pas précisément. J'étais sur mon bureau. Et puis, d'un seul coup, la Bible tombe sur mon bureau, comme ça. Enfin, elle devait être en équilibre précaire. Et curieusement, ouf, elle tombe. Je dis, voilà. Là, parfois, il y a ces signes-là. Même si vous êtes dans vos pensées et que vous voulez y rester, eh bien, soyez à l'écoute des petits signes qui arrivent. Il y en a plein, 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 plein dans la vie spirituelle. Soyez à l'écoute de ça. Et c'est toujours resté une expérience pour moi intéressante. En tout cas, nous sommes dans une société qui nous aide, qui nous sollicite à saisir l'anneau. Vous connaissez le Seigneur des Anneaux, on l'a revu avec ma famille. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage de le voir. Mais surtout avec les lunettes chrétiennes. Et c'était lorsqu'on a vu le premier épisode, je ne connaissais pas Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et je vais voir ça avec Étienne et Jocelyne. Et puis, oh, j'ai trouvé que le premier épisode, c'était noir, sombre, des monstres de toutes sortes. Et puis je me dis, bon, j'étais pas particulièrement pris par le film. Puis il me dit, tiens, je vais passer mes lunettes. Et il m'a expliqué qui était Tolkien et comment ça s'est passé et toute cette mythologie autour du christianisme. Et lorsque vous revêtez vos lunettes chrétiennes, vous voyez le film complètement différemment, avec une autre perspective. Et là, ça vous parle de cet anneau de la puissance que personne n'ose prendre. Ne serait-ce que le regarder, c'est déjà être tenté de l'attraper. Mais les plus sages dans le film, pour ceux qui l'ont vu, Gandalf le Gris, qui est un personnage haut en couleur, extraordinaire, on se dit, une force, il peut pas voir l'anneau. Il peut pas le toucher, c'est impossible. La reine des elfes, elle est extraordinaire aussi, une grande sagesse, une grande maturité dans sa vie. Elle est incapable de le regarder, sauf qu'à un moment donné, le petit hobbit qui est tout pur, pur comme Jésus, parce que c'est une image du Christ, sans qu'il soit l'image du Christ lui-même, il tend cet anneau à la reine des elfes, et la reine des elfes est là, elle est prête à le prendre, et son visage se transforme en sorcière, c'est épouvantable. Et puis elle retire sa main et elle dit: j'ai vaincu la tentation. Et dit: merci de m'avoir permis de remporter cette victoire sur moi-même, et de savoir que je suis plus forte que ça, et je te soutiens dans ton périple, parce que le périple du film, ça sera se débarrasser de l'anneau. Alors quand vous allez sur Internet, achetez l'anneau. Vous y achetez au moment du film, c'était possible de commander, les gens étaient fascinés par ça, mais ils n'ont rien compris au film. Le but du film, c'est pas avoir l'anneau et puis avoir un bel objet avec un petit des sigles à l'intérieur. C'est s'en débarrasser, il ne faut surtout pas l'acheter. Hein? Mais cet anneau, c'est tout. C'est toutes nos addictions, c'est toutes nos les petits trucs dans nos jardins secrets. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et là encore, enfin, juste une petite anecdote sur le film, il y a un personnage qui est épouvantable, il s'appelle Gollum, pour ceux qui l'ont vu, vraiment, il est horrible, horrible, il est tout nu, mange le poisson cru, enfin, il est d'une laideur épouvantable. Et en fait, il est complètement pris par l'anneau, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça qui compte. Mon précieux, il dit, mon précieux. Et il se détruit. Et il se détruit. Il n'a même plus conscience de son apparence physique. Il est complètement détruit. Pour ceux qui ont connu des gens qui avaient des problèmes d'alcool, c'est ça. Les gens se détruisent, littéralement. Et c'est plus fort qu'eux. Et c'est plus fort qu'eux. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir. Il faut qu'ils le veuillent, d'abord. Et puis, c'est la démarche à faire. Il faut qu'ils le veuillent. Personne ne peut décider à leur place. Mais c'est destructeur. C'est destructeur. Et le Seigneur nous encourage donc à tenir. Pour certains, ça sera ça. Et moi, je crois que les gens qui viennent me voir pour un problème d'alcool, je porte pas de jugement sur eux. Comment pourrais-je? Moi aussi, j'ai des addictions qui sont secrètes, dans mon jardin que personne ne voit. Et c'est presque plus terrible. L'alcool, ça se voit. Je me rappelle une femme qui est venue me voir, une infirmière, et elle me dit, je lui dis, madame, il est temps de faire quelque chose. Je lui dis, ça se voit. Ça, c'est terrible. Il y a des gens, ça ne se voit pas, hein, encore. Mais à un moment donné, ça se voit. Et ça, c'est une femme, une cinquantaine d'années, avec un métier. Et ça a fait un déclic. Je dis, je ne vais pas tricher avec vous. Je ne vais pas tricher avec vous, ça se voit. C'est quelque chose qui a commencé à la détruire. Alors heureusement, quand vous faites une cure, 15 jours plus tard, vous avez rajeuni 5 ans. C'est spectaculaire. Ça va très vite. Le corps est très généreux. Et nous devons tous essayer de nous entraider. Si jamais c'est un problème comme ça, il faut en parler à quelqu'un. Pas à l'église entière, c'est pas la peine d'étaler son péché devant l'église entière. Certains le font, peut-être ça fait parfois du bien de se lâcher complètement, mais ça peut faire du mal à certains membres. On n'a pas besoin de tout savoir. Par contre, vous avez un souci, vous avez confiance en quelqu'un, vous pouvez aller le voir et lui dire, voilà, j'ai ce souci-là, compris ensemble pour ça. Et vous serez très surpris qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais de jugement. Dans une église, il y a un frère qui avait commis quelque chose de terrible avec sa belle-fille. Il y a eu des rapports avec sa fille qui avait 15 ans, qui était la fille de quelqu'un d'autre. Et finalement, il y a eu une dénonciation et cette personne est partie en prison. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est le comportement des anciens de l'église, qui sont allés voir cette personne qui était plein de gentillesse, de compréhension, de prête à pardonner l'impardonnable. Et c'est les anciens qui ont commencé à le faire. Un peu comme Jésus, quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, mais c'est les anciens qui se sont retirés d'abord. Et là, pareil, des gens qui ont déjà vécu une certaine vie, qui ne sont pas dans le jugement, et qui sont venus et qui ont entouré ce frère en disant « Tout est pardonnable. Jésus pardonne tous les péchés. » Et ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir sortir de l'ombre. Alors là, lui, il a été pris, pas en flagrant délit, mais il a été dénoncé. Mais pouvoir dire les choses, grandir ensemble, se fortifier ensemble, c'est quelque chose de quelque chose de très, très important. Je voudrais relire avec vous le passage que Pierre a pris ce matin, en Colossiens 3, et conclure avec ça. Le passage s'intitule « Ensemble ». Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère, faites preuve de patience. Et si vous vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance par sa grâce, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites ce que vous devez dire dans les dépendances du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. Donc soyons dans cette urgence. Sachons que la nuit est bientôt finie, que le jour est tout proche et qu'il est temps de tout le temps se remettre en question, que chaque jour est un nouveau jour qui nous rapproche de la venue du Seigneur et ça pourrait être aujourd'hui. Amen.